Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Maud Aigrin.
Bonjour, le 6 juin dernier, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, entre autres, célébraient ensemble le 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Le 25 août, c'est la date anniversaire de la libération de Paris. Pour en parler, Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amouroux. Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut, élu en 1978 à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un journaliste de renom, successivement directeur général du journal Sud-Ouest, directeur du quotidien François, co-directeur du journal Rhône-Alpes. Vous êtes aussi le président du jury du prix Albert Londres et vous êtes aussi et peut-être même surtout historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle vous avez consacré un immense travail rassemblé dans La grande histoire des Français sous l'occupation, publié par les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Dans cette histoire, une très grande partie est intitulée Joie et douleur du peuple libéré. Elle est consacrée à l'été 44, juin, juillet, août 44. C'est une période pleine de richesses, notamment on le voit grâce à toutes les sources que vous avez reçues, des centaines de documents, de lettres, de journaux intimes que vos lecteurs finalement vous ont transmis, pourrait-on dire spontanément. On comprend donc combien pour les Français qui ont vécu cet été-là, il fallait le raconter, pas seulement d'ailleurs les faits, mais aussi les émotions, les effusions de joie. C'est ce dont se souvient la mémoire collective. Également les attentes, les angoisses, les regrets peut-être, on le verra, qui suivront la libération. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans l'introduction de cet ouvrage. Je vous cite cette histoire. Il ne s'agit pas de la réduire à quelques images d'Épinal. Les joies l'emportent certes sur les douleurs, mais pourquoi ne pas dire aussi les douleurs. Alors avec vous, Henri Amouroux, nous allons donc revenir sur les joies et les douleurs du peuple libéré. Mais pour commencer, je ne peux m'empêcher de vous interroger sur ce qui vous a poussé à tant écrire sur cette période. Vous aviez 19 ans au début de la guerre, 24 à la libération de Paris. Pour vous, c'était absolument indispensable de raconter.
Ça n'est pas devenu quand j'avais 19 ans ni 24 ans, ça l'est devenu plus tard. Je suis essentiellement journaliste, j'ai été pendant de longues années de ma vie journaliste. Et vous savez, pour les journalistes, il faut toujours essayer d'aller plus loin. Plus loin, c'est écrire un livre. Car quand on est journaliste, on s'aperçoit que ce qu'on a écrit le mardi est oublié le mercredi ou le jeudi, et que c'est comme l'eau qui fuit dans la main. Si on met l'eau dans la main, elle fuit à travers les doigts. Donc il faut écrire plus loin. J'avais écrit en 1959 un livre qui s'appelle « La vie des Français sous l'occupation », une vie quotidienne des Français. Ça m'avait passionné parce que personne ne s'intéressait à la vie quotidienne des Français. Donc j'ai écrit ce livre, puis après j'ai écrit un livre, ça m'a vraiment prodigieusement intéressé. J'ai écrit un livre après sur le 18 juin 40, pour lequel le général de Gaulle m'avait reçu à l'Élysée, mais j'avais vu bien d'autres personnages, car réduire le 18 juin au jour où de Gaulle prononce son appel, là aussi c'est une erreur historique, il y a bien d'autres choses qui se passent ce jour-là, et qui sont dramatiques d'ailleurs. Puis j'ai écrit un livre « Pétain avant Vichy », Comment devient-on un homme providentiel ? J'avais eu la chance, en arrivant à convaincre, car on ne vous donne pas les lettres d'amour envoyées à sa mère, comme ça, en arrivant à convaincre Pierre de Hérin, qui était le fils de ma future Madame Pétain et d'un monsieur qui s'appelait de Hérin, et qui, le couple avait divorcé. Elle a été la maîtresse, puis ensuite la femme du maréchal Pétain. Et donc, il y avait dans une grande boîte, très grande boîte comme ça, il y avait des centaines de lettres, toutes reliées par des faveurs de couleurs différentes suivant les années. J'ai mis très longtemps à convaincre ce monsieur de me montrer les lettres dans leur suivi chronologique. D'abord, il en tirait une, c'était 1917, une autre, c'était 1923, une autre, c'était 1938. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir depuis 1912, n'est-ce pas, jusqu'à 1940. Vous avez un tracé psychologique. Vous allez faire chez un médecin, une échographie. Bon, l'échographie, ça vous montre les rythmes, le battement du cœur. Et là, ben, vous avez la connaissance d'un homme, car il n'a pas écrit pour vous. Il a écrit pour une seule personne, une seule, qui est une femme, et qu'il aimait passionnément. Donc il y a toutes des histoires d'amour, toutes des histoires de vie, puis de vie avec la longueur et la lenteur de la vie, et les problèmes quotidiens, et sur des problèmes comme l'ambition, comme sur les problèmes Dieu, la foi, etc. Vous avez des indications indiscutables, en point c'est tout, parce que c'est écrit à une dame, et c'est pas écrit du tout pour l'histoire. Alors ça m'a passionné, et puis après, j'ai eu l'idée d'entreprendre 8 puis 10 volumes, 8 qui sont devenus 10, avec Robert Laffont, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est un des grands, qui a été maintenant un peu à la retraite, il est à la retraite, mais c'est un des plus grands éditeurs français. C'est un homme absolument remarquable qui a accepté le principe. Un jour, il me signe un contrat pour 8 volumes. Vous savez, ça ne se trouve pas comme ça, un éditeur qui vous signe un contrat pour 8 volumes. 8 volumes qui sont devenus 10. Et vous avez fait allusion aux joies et douleurs du peuple libéré. C'est le 8e volume. Chacun de mes livres est daté. Pour moi, l'histoire est un escalier. Chaque mois est différent, chaque journée peut être différente. Entre le 20 juin 40 et le 24 juin 40, il n'y a que 4 jours. Et tout bascule. Pourquoi ? Parce que le 22 juillet, les Allemands entrent en Russie. Tout bascule à ce moment-là.
Alors, bien sûr, nous allons très vite en venir à cette date du 25 août 44, date de la libération de Paris. Mais avant, Henri Amouroux, il faut tout de même revenir succinctement sur les presque trois mois qui ont précédé cette libération, entre le débarquement des forces alliées le 6 juin et la libération de Paris. C'est vrai qu'on oublie souvent combien cette progression a été difficile. Elle a vraiment été difficile, on pense.
On oublie généralement. Alors pour les gens, pour les gens, c'est normal d'ailleurs, c'est normal. Le temps efface bien des choses. Et après, tout finit par des résumés dans les livres d'histoire. Vous avez 3 lignes, pop, dans les livres d'histoire. En vérité, entre le 6 juin et le 25 août, il s'est passé beaucoup de temps et peu de choses, je dis ça, entendons-nous, beaucoup de batailles sur toujours le même terrain. Les Normands, on ne parle pas assez de la misère, des malheurs, des souffrances des Normands. Les Normands sont restés 2 mois, 2 mois et demi. Presque 3 mois dans certains cas sous les bombes, entre le feu anglais et le feu allemand, n'est-ce pas ? Et pourquoi ? Parce que il y avait deux, n'est-ce pas ? Le front de débarquement est américano-anglais. Alors les plages américaines, notamment Omaha, n'est-ce pas ? Utah, Omaha, et puis ensuite vous avez les 3 plages Gold, Sword et Juneau. N'est-ce pas, Juneau et Sword. Juneau étant la plage canadienne. Les Canadiens fixent Caen. Ils veulent prendre Caen. Et les Américains vont vers Cherbourg et puis après ils vont redescendre sur Avranche. Le problème de la prise de Caen, c'est que ça ne se passe pas du tout comme imaginé. Ni par les Anglais, ni par les Allemands d'ailleurs. Les Allemands, comme les Anglais, pensaient que Caen serait pris le 7, 8, plus tard. Le 7, Montgomery, qui commandait non seulement l'armée britannique, mais les armées alliées, car le commandement suprême, c'était Eisenhower, et le commandement des armées terrestres, c'était Montgomery. Montgomery imaginait faire une conférence de presse le 7 à Caen. Ben non.
Et finalement, ça ne sera pas possible.
Attendre 32 ou 33 jours, 34 jours avant d'entrer dans les ruines de Caen.
Pourquoi, selon vous, on oublie cette souffrance des Normands ? Qu'est-ce qui a occulté ça ? Est-ce que c'est les joies de la libération ?
Non, pas du tout. C'est ce que j'appelle, le récit militaire. Les imboum-boum, bam-bam, les bombes, les mitrailleuses, les canons, les avions mitrailleurs, etc., etc. La mort des gens, la blessure. Une jeune fille de 17 ans, 18 ans, qui est amputée. elle perd un bras ou elle perd une jambe, elle va vivre jusqu'à 80, 90 ans avec un bras en moins, une jambe en moins. Et toute sa vie est amputée, toute sa vie est amputée. On parle des morts. Il y a eu 20 000 morts dans le Calvados. Il y en a eu dans l'Eure, il y en a eu dans tous les départements voisins. Bon, 45 ou 50 000 morts en Normandie au moment du débarquement. Bon, dans les jours avant, dans les jours après, naturellement. Mais on parle des morts, ça c'est les morts. Mais les blessés, on n'en parle pas des blessés. Or les blessés, ils existent, ils ont vécu, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. Et ils sont là avec leurs blessures. Il y a des blessures qui sont réparables, il y a des blessures qui sont irréparables et qui modifient toute votre vie. Car vous n'avez pas la même vie si vous êtes une jeune fille avec vos deux bras et vos deux jambes, si vous êtes une jeune fille avec deux bras et une seule jambe. Vous n'êtes pas le même destin. Ce n'est pas vrai.
Alors l'histoire oublie les difficultés, la douleur de la population normande. L'histoire a tendance également à oublier les tensions qui existent au sein même de la résistance française pendant cet été-là.
Oui, mais c'est normal. J'ai présenté l'autre jour à l'école militaire mon ami Jacques Baumel, qui est l'un des derniers, véritablement, avec Cordier, avec deux ou trois, mais peu nombreux, à avoir connu cette résistance avec un pouvoir de direction. Avec un pouvoir de direction. Et Jacques Baumel dit bien qu'il y avait des conflits permanents. Il y avait des conflits de pouvoir. Jusqu'en 1942, non, il n'y a pas de conflit de pouvoir parce que on ne sait pas comment ça va finir. On ne voit pas. C'est comme un tunnel dont vous ne voyez pas le bout. Alors, un tunnel, vous ne voyez pas le bout, vous voyez peut-être juste un petit trou au bout du tunnel, mais tellement petit, mettons une pièce d'un demi-euro, 50 centimes. Et puis vous approchez, c'est-à-dire le temps passe, et puis la lumière devient de plus en plus violente, de plus en plus évidente. Alors qu'est-ce que ça veut dire la lumière ? Ça veut dire qu'il y aura une compétition pour le pouvoir. Et il y a, à partir de 1942, c'est-à-dire du 8 novembre, du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a eu Stalingrad, et il n'est pas encore, c'est le début de Stalingrad, c'est la fin de Stalingrad, c'était en janvier 1943. Après Stalingrad, les Allemands n'ont plus que des défaites. En retraite, mais des défaites. Notamment la grande bataille de chars à Kursk, qui est une bataille extraordinaire, où il y a des milliers de chars engagés, qui sera une défaite allemande.
Et donc il y a des conflits, effectivement, d'intérêts, des conflits de pouvoir, qui sont exacerbés après le débarquement, à l'approche de la victoire.
Plus le temps approche où vous pouvez prendre le pouvoir, plus naturellement la compétition est vive. Ils étaient tous anti-allemands, bien entendu, ils étaient tous hostiles à l'Allemagne, mais chacun voulait avoir sa part de pouvoir. Et cela est normal, c'est pas choquant, c'est normal.
Il y a donc tension d'un côté au sein même de la résistance, tension civile, on pourrait dire, entre les Français qui sont miliciens et résistants. C'est aussi quelque chose qui se développe après le débarquement.
Vous savez, ne racontons pas d'histoire. La collaboration dans son véritable sens, et non pas dans le sens qu'on lui a donné à travers le temps, et que des historiens que je tiens pour peu sérieux ou peu honnêtes lui ont donné à travers le temps. C'est-à-dire, ils disent tous les Français étaient collaborateurs. C'est aussi grotesque que de dire tous les Français étaient résistants. La collaboration militante, s'engageant aux côtés des Allemands, prenant des risques à côté des Allemands, s'engageant dans des partis officiellement pro-allemands. On connaît presque département par département. C'est quelques centaines de milliers de gens. Pas davantage. La résistance active, c'est-à-dire prenant des risques, c'est aussi quelques cent, un peu plus au fur et à mesure que le temps passe, mais prenant des risques, ne se contentant pas d'écouter Radio Londres, qui était déjà prendre un risque, mais enfin mineur. Enfin, vous me direz, on pouvait être mis en prison si on écoutait Radio Londres, et on pouvait être pris en otage si on était en prison. C'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même pas le grand risque. Le grand risque, c'était pas ça. Si c'est d'écouter Radio Londres, toute la France était résistante. Mais non, c'est pas ça. Et il y avait des résistants actifs, engagés, qui prenaient des risques considérables, des hommes et des femmes, naturellement aussi des femmes, et cela a été plus nombreux d'ailleurs que la collaboration active, mais c'était de toute façon une minorité.
Si ça avait été deux minorités qui s'affrontent après le débarquement, qui se rendent des comptes, qui règlent leurs comptes également.
Des règlements de comptes qui sont surtout faits d'ailleurs, il faut dire les choses dans leur vérité, par les communistes. Les communistes ont une résistance tout à fait différente de la résistance gaulliste. Ils ne sont pas gaullistes, ils sont agaullistes. Alpha privatif, ils sont agaullistes. Ils ne sont pas gaullistes, les communistes. Ils font leur résistance sans en référer à Londres, sans suivre les ordres de Gaulle. Ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur affaire. Et ils créent, n'est-ce pas, on va créer, avec, c'est de Gaulle qui crée des comités départementaux de la libération, qui vont devenir départementaux locaux de la libération. Et ça, vous allez avoir, avec les partis qui sont ressuscités, parce que les partis écrasés par la défaite, écrabouillés par la défaite, laminés par la défaite, ressuscitent lorsque, à travers le Conseil national de résistance, Jean Moulin, sur ordre de Gaulle, fait venir à égalité non seulement les mouvements de résistance, mais les anciens partis politiques, dont certains n'avaient rien fichu, que dans la résistance, n'est-ce pas ? À ce moment-là, ils reprennent le pouvoir, ils sont plus malins que les autres. Et le Parti communiste a infiltré beaucoup de comités départementaux et locaux de résistance, bien entendu, pour prendre le pouvoir localement.
Alors je reçois Henri Amouroux, nous évoquons la libération de Paris le 25 août 1944 et nous nous retrouvons tout de suite après une première pause.
Les membres de l'Académie française et d'autres académies, des écrivains de tous horizons, des grands lecteurs venus du monde de l'édition et de la traduction, ou encore des artistes, nous parlent de leur coup de cœur littéraire dans l'émission « Au plaisir d'insolence » animée par Elisabeth Antebi. Restituer le plaisir de lire, de rêver, de laisser se déployer les mots, revivre les discussions à bâtons rompus, nourris de lectures croisées des salons d'autrefois. S'amuser, s'émouvoir, faire parler un écrivain qui marque notre mémoire, notre vie, ou parler d'une œuvre qui a trouvé en nous des échos. Tel est le projet de cette émission Au plaisir d'insolence, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amouroux, auteur de La grande histoire des Français sous l'occupation, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Avec vous Henri Amouroux, nous revenons sur la libération de Paris le 25 août 1944, il y a 60 ans. Alors nous étions justement en train d'analyser un peu ces rapports de force, ces conflits d'intérêts et de pouvoir entre les deux résistances gaullistes, communistes.
Vous les avez à Paris ?
À Paris, justement, à Paris. Quelles vont être les conséquences de leur opposition ?
À Paris, d'abord, ça commence très très lentement. Le débarquement a lieu, la guerre a lieu, elle se traîne, si j'ose dire, la guerre, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de morts en Normandie, et à la percée d'Avranches, et puis après la percée de Falaise, mais la percée de Falaise qui met fin au sort des troupes allemandes qui étaient en Normandie, c'est 5 jours avant la libération de Paris, ou 6 jours avant la libération de Paris. Puis il y a la percée d'Avranches, la remontée des troupes de Patton, le grand mouvement par le Mans, n'est-ce pas, de remonter vers Paris. Bon. Avec la 4e division américaine qui, elle, a pour objectif la Bastille, la prise de la Bastille. À Paris, bon, les choses ne bougent pas. Bon,
on est conscient de l'imminence de l'arrivée
on est conscient, on est à peu près sûr de la victoire alliée, naturellement. Mais aucun mouvement ne se déclenche jusqu'au 16, jusqu'au 17, où il y a ce moment-là...
17 août, donc.
17 août, naturellement, 16-17 août, où il y a à ce moment-là la réaction des agents de police qui se mettent en grève et qui... il n'y a plus d'agents de police à Paris.
Alors, à l'appel de qui ? Comment est-ce que ça se met en place, cette grève ?
À l'appel du parti, du mouvement de résistance... à l'appel également du Parti communiste, et l'humanité clandestine, puisque l'humanité avait paru par bonheur pour l'humanité et par bonheur pour le Parti communiste. Le Parti communiste, après l'entrée des Allemands à Paris, c'est-à-dire après le 14 juin 1940, le Parti communiste avait redemandé aux Allemands, à la propaganda Staffel, avait demandé la reparution de l'humanité qui avait été interdite par Daladier, donc le gouvernement de la Troisième République, interdite parce que le Parti communiste soutenait le pacte germano-soviétique. Et c'est la police qui n'était pas de Vichy, qui était la police, puisque Vichy n'était pas encore Vichy, le 20 juin 1940, c'est la police de Pétain, du maréchal Pétain, bien sûr, qui arrête les communistes à leur sortie de la propagande Staffel. Il les met en prison, Et c'est un officier allemand qui s'appelait Frick, d'ailleurs. Le nom me revient, parce que c'est un nom facile à revenir. Un magistrat, d'ailleurs. Un officier, mais magistrat. Qui les fait libérer, les trois femmes, ou les deux femmes, et les trois hommes, dont un avocat, d'ailleurs, qui avaient été arrêtés par la police française et mis en prison parce qu'ils avaient eu des rapports avec les Allemands. Alors, donc, il n'y a pas de reparution de l'humanité. Ce qui a rendu un immense service au Parti communiste. Alors, s'il avait eu cette casserole pendant des années, ça aurait bien embêté. Il n'a pas eu cette casserole. Et donc, l'humanité a reparu clandestinement. Et ceux qui diffusaient l'humanité étaient très courageux, étaient arrêtés, déportés ou fusillés. Il faut aussi dire ceci, car ça serait malhonnête de ne pas le dire.
Donc, même sans l'humanité, ils ont quand même les moyens de se faire entendre de la police appellent à la grève.
Mais il y a l'humanité qui, le 16 ou le 17, lance un appel aux armes, n'est-ce pas, à la révolte. Chacun, avec le thème, chacun s'embauche. Bon. La chance de Paris, c'est que, bon, dans le même temps, il ne faut pas l'oublier, ou plus exactement, il faudrait s'en souvenir, dans le même temps, il y avait la révolte de Varsovie. L'armée russe était arrivée au bord de la Vistule et elle ne bougeait pas. Elle laissait les Polonais révoltés se faire tuer par les Allemands. Pourquoi ? Parce que ces Polonais révoltés étaient des gens de droite, beaucoup naturellement. Il y avait tout aussi, mais enfin, l'animation, la direction, c'était.
La majorité.
Et c'était des gens de droite. Et l'armée soviétique, communiste, hein, soviétiques communistes, qui voulaient prendre le pouvoir en Pologne, ils se disaient, ils se font tuer, très bien, tant mieux, ils disparaissent. Enfin, je dis, j'exagère peut-être, mais enfin, elle n'intervient pas.
Finalement, ils pensent pouvoir tirer profit
de cette... Elle n'intervient pas, et elle empêche les Américains de venir aider les Polonais révoltés en refusant aux avions américains de se poser sur des terrains russes, sur des terrains soviétiques. Donc, comme ils ne peuvent pas faire l'aller-retour, ils ne viennent pas. Dans le même temps, il y a Varsovie. On ne pense pas assez à Varsovie. Ça a été effroyable, Varsovie. Si Paris avait eu le sort de Varsovie, Paris était détruit. Il y aurait eu des dizaines, des centaines de milliers de morts à Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante, c'est qu'à Paris, il y a deux pouvoirs. Il y a un pouvoir, deux pouvoirs également souterrains, d'ailleurs. Un pouvoir gaulliste, trois pouvoirs. Un pouvoir officiel faiblissant, partant en quenouille, mais avec un homme, comme Tétinger d'ailleurs, qui représentait le conseil municipal, et dont le fils est toujours vivant, et qui a joué un rôle important pour le ravitaillement de Paris, car il fallait ravitailler Paris quand même. Il y avait 2 millions de gens à nourrir, ni les communistes, ni la résistance ne pouvaient le faire. Bon. Alors Tétinger s'en est beaucoup occupé, et d'autres avec lui, et puis il y avait un pouvoir gaulliste et un pouvoir communiste. Ils n'étaient absolument pas d'accord sur ce qu'il fallait faire.
Quelles sont leurs principales divergences, concrètement ?
Je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est le problème de De Gaulle. Les communistes, eux, sont pour un mini-Varsovie, sont pour une bataille, vraiment, où il y a des morts, etc.
Et d'où la montée des barricades ?
Oui, bien sûr. Mais non, ils sont pour un pouvoir qui surgirait des barricades. Les barricades, quand on voit leur géographie, c'est exactement la géographie 1848.
Hein, c'est une vieille tradition parisienne, les barricades.
Avec le pouvoir républicain, c'est là où il y a eu le plus de morts. Ce n'est pas 1851, ce n'est pas vrai, c'est 48. Seulement, on ne le dit pas, parce que ça ne fait pas bien le dire. Mais bon, si on raconte l'histoire en me racontant des blagues, ce n'est pas l'histoire, c'est des blagues, c'est tout. Alors, les barricades, c'est 48, c'est 70 également. C'est dans les mêmes lieux populaires, dans les mêmes quartiers populaires, les mêmes petites rues étroites, etc. etc. Bon. Alors, eux sont pour ça. Pourquoi ? Pour avoir, lorsque les Américains entreront et lorsque De Gaulle arrivera, pour parler d'égal à égal. Les gaullistes, et De Gaulle surtout, De Gaulle. Donc on ne comprend pas si on ne comprend pas l'essentiel. L'essentiel, c'est De Gaulle n'est pas un soldat. Il est soldat, bien entendu. Mais ce n'est pas d'abord un soldat. S'il dit c'est pas un soldat, je vais me faire accabler de je ne sais pas, j'injure. Ce n'est pas d'abord un soldat. C'est d'abord un historien, c'est avant tout un politique et c'est un soldat. Mais en 1944, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas lui qui dirige la coalition, ce n'est pas lui qui dirige les armées, c'est pas, J'aurais sans doute bien aimé, mais ce n'est pas lui.
Alors, la résistance gaulliste, qu'est-ce qu'elle souhaite ?
C'est très simple. Il ne veut pas recevoir le pouvoir des mains des communistes. Il ne veut pas le recevoir des mains des Américains. D'où la pression qu'il fait auprès du général Eisenhower pour que la division Leclerc, qui était dans l'armée...
La deuxième division blindée.
Oui, mais la deuxième TB, mais qui était dans une armée américaine, elle était dans l'armée du général Giraud. Elle était dans une armée américaine. Il ne s'entendait pas. Général Leclerc et son supérieur américain ne s'entendaient pas. Il fallait l'enlever de cette armée américaine. Ce n'y avait qu'Eisenhower qui pouvait le faire, naturellement, De Gaulle ne pouvait pas le faire. Et à ce moment-là, il faut que lui donner un ordre à part, de foncer sur Paris. Vous comprenez ?
Afin que la libération soit française, bien sûr.
Que la libération soit française.
De Gaulle va avoir du mal à obtenir cette spécificité de la deuxième DB.
Non, il l'obtiendra assez vite. Eisenhower était un homme très intelligent, qui comprenait tout à fait bien les choses, et qui a très bien compris, qui a détaché la division Leclerc. Et il y avait quand même la 4e division américaine, dont on ne parle absolument plus, alors qu'elle est entrée dans Paris en même temps. Elle est allée à Bastille, son trajet, on le connaît très bien. Bon, et puis celle-là, elle est passée par pertes et profits, alors qu'elle est entrée dans Paris. Alors, il y a donc eu 5, 6 jours, 7 jours de bagarre, de bataille, interrompue par des trêves, car deux hommes ont joué un rôle important. Je vous en parlerai tout à l'heure, si vous continuez à m'interroger là-dessus.
Alors, une force en présence dont on n'a pas encore parlé, et pas des moindres, bien sûr, l'occupation allemande qui est dans Paris,
oui,
à la veille de sa libération.
Dans Paris, mais qui n'est pas une occupation avec des troupes actives très vives, très vieux.
Quelles sont ses forces ?
C'est surtout une force de bureaucrate. Les bureaucrates, vous savez, sont bureaucrates, ils n'ont jamais manié beaucoup la mitraillette, ils l'ont oublié. Alors, il y a quelques chars, suffisamment pour faire des dégâts naturellement, qui sont basés notamment au Luxembourg, et il y a dans des casernes des troupes, il y a rue de Rivoli des états-majors, mais les états-majors, c'est pas constitué de combattants, les états-majors, c'est des états-majors. Il y a quelques avions qui sont à l'extérieur de Paris. Il y a certainement assez d'hommes pour faire des dégâts, beaucoup plus de dégâts qu'il y en a eu, car paradoxalement, il y a eu beaucoup plus d'Allemands tués que de résistants et d'hommes de chez Leclerc tués, beaucoup plus, et que de témoins tués, parce qu'il y a eu 500 à 600 témoins tués, des curieux, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Mais vois, regarde, etc., et puis qui passe le nez, toc, il y a une balle qui emporte le nez, quand elle emporte que le nez, c'est moindre mal.
Moins de dégâts que prévu en termes de pertes humaines, moins de dégâts également au niveau de la destruction de Paris, et ça c'est grâce à un homme, Von Schultz.
Oui, c'est un homme qui s'appelait le général von Schultz, qui n'était pas un homme très tendre par ailleurs, c'était un chef de guerre qui avait fait la guerre en Russie. Et la guerre en Russie, j'aime autant vous dire que ça bardait des deux côtés. Ils étaient aussi farouches et féroces et impitoyables d'un côté que de l'autre. Il avait notamment pris Sébastopol.
Et en 1944, il est donc le commandant du Grand Paris.
En 1944, il est dans les derniers jours. C'est pas lui. Et donc, il est en 1944, il est du côté d'Avranches et il est commandant de la 4e armée. Cette 4e armée, qui est une armée moteur blindée, est complètement écrabouillée par un bombardement américain. Il y a 1 500 avions qui bombardent cette armée. Et von Schultz arrive, n'est-ce pas, à cette conclusion que c'est pas possible, que la guerre est perdue. Et Hitler le convoque et lui donne le commandement de Paris, mais trois semaines avant la libération. Et trois semaines avant la libération, après l'attentat contre Hitler, après le 20 juillet. Puisque le 20 juillet, il y a eu, vous le savez, l'attentat contre Hitler.
Donc il a un commandement tardif et il va faire beaucoup en trois semaines pour Paris, pour éviter sa destruction.
Moins de trois semaines, oui. Alors il reçoit l'ordre de détruire Paris. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'ordre écrit, un ordre oral, qui a été confirmé oralement par téléphone. Enfin bref, il avait en tout cas l'ordre de se défendre dans Paris. Ça, c'est évident, comme d'ailleurs tout général qui a une place avec des hommes. On doit défendre la place où ils sont. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'on sait très peu. Il a été fait prisonnier de guerre donc le 24 août. Et il a été mis dans un camp de prisonniers de guerre avec d'autres généraux allemands. Ses confrères, ses collègues, ses autres généraux allemands le considéraient comme un traître. Et le mettaient tout à fait à l'index.
Signe que donc il n'a pas respecté l'ordre de détruire Paris.
Extraordinaire, c'est que la résistance gaulliste, notamment Parodi, que j'ai connu, qui a été à l'Académie des sciences morales, ce Parodi, se fait arrêter par une patrouille allemande et est conduit devant le général von Schultz. Il a en main les résistants, les chefs de la résistance, il va les libérer. Il les libère. Il fait pourquoi ? Parce qu'il y a un intermédiaire qui s'appelait Nordling, qui était consul général de Suède, et qui était un homme très très remarquable. Il est mort il y a longtemps, on a publié un livre sur lui récemment. C'était un livre important parce qu'il donnait, chacun donne sa version des événements. Chacun amplifie son rôle, ou lui tentait plutôt à modérer son rôle. Il a joué un rôle d'intermédiaire. Il allait voir les résultats en gaulliste, il voyait les Allemands. Il était neutre, la Suède était neutre. Il pouvait voir les uns et les autres.
Et il a réussi à jouer un véritable rôle de relais, de tampon entre les deux forces en présence.
Alors, ces jours de bataille, c'est après le 18, le 19, le 20, avec des appels à la bataille, etc. Des appels aux barricades, tout ça, vrai, tout ça. Il y a des gens qui sont fait tuer, il y a des gens qui sont morts. Bon, tout ça est vrai, mais c'était entrecoupé de trêves. Il y avait des trêves. Alors, on arrêtait pour 3 heures, on arrêtait pour 4 heures. À un moment donné, il y a eu une trêve qui a été annoncée par des voitures à haut-parleurs sur lesquelles il y avait un officier allemand et un agent de police français. Tout ça. Et puis, un homme que j'ai bien, bien connu, qui était un ami, qui s'appelait Jacques Chaban Delmas. Il s'appelait Monsieur Delmas. Puis dans la résistance, il s'est appelé Monsieur Chaban. Parce qu'en Dordogne, il passe devant chercher un nom... Vous savez, dans la résistance, les noms de code changeaient souvent, naturellement, parce qu'ils étaient percés par l'espionnage allemand. Et il passe devant un château, c'était Château de Chaban. Ah, il dit, je m'appelais Chaban. Il s'est donc appelé Chaban Delmas. Chaban va à Londres, revient en Normandie, mais il fallait qu'il franchisse les lignes. Alors il passe à bicyclette avec un ou deux poulets normands, n'est-ce pas, pour sa femme. Il était marié, il avait un enfant, deux enfants, pour sa femme, n'est-ce pas. Il passe les lignes comme ça, avec son poulet, en disant, moi je vais ravitailler ma famille, etc. En vérité, c'était l'agent de Gaulle. Il avait été nommé général de brigade à ce moment-là, c'était le plus jeune, et il était délégué militaire national. Si les Allemands le prenaient, ils le fusillaient, très vraisemblablement. Enfin, il y avait 98 chances, si j'ose dire, sur 100. Et il vient avec l'ordre de Gaulle, qu'il n'y ait pas de grande bagarre, que ce soit de Gaulle. Et alors, les résistants font savoir à De Gaulle, il faut savoir aux Américains qu'il faut se dépêcher, qu'il faut presser. D'où l'envoi de la division Leclerc.
Se presser, nous allons donc y revenir. Je reçois Henri Amouroux et nous évoquons la libération de Paris le 25 août 1944. Nous nous retrouvons après une seconde pause.
Sur Canal Academy, Jacqueline de Romilly dévoile son amour pour l'écriture et pour la Grèce. Elle est venue parler de son livre « Le sourire innombrable » et de sa traduction de l'historien grec Thucydide. Écoutez également nos chroniqueurs littéraires parcourir ses livres et commenter les œuvres de cet illustre écrivain, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions des belles-lettres.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amouroux. Vous êtes l'auteur de La grande histoire des Français sous l'occupation, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Avec vous, nous revenons sur la libération de Paris qui a eu lieu le 25 août 1944, il y a 60 ans. Vous venez de nous exposer les différentes forces qui sont présentes à Paris à la veille de la libération. La résistance divisée, les gaullistes, les communistes, l'occupant allemand et puis le peuple de Paris, qu'il ne faut pas oublier.
Non, il ne faut pas l'oublier, mais le peuple de Paris. Il y a un livre qu'il faudrait lire, vous savez, qui est remarquable, c'est le journal de Galtier-Boissière. Galtier-Boissière, c'était un ancien combattant de 14-18, qui avait fait la guerre de 14-18, qui était évidemment quelque chose de très, 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 très différent de ces barricades. Hein. C'est tout à fait autre chose. Être à Verdun, être là, ce n'est pas la même chose. Et Galtier-Boissière, qui était libraire devant place de la Sorbonne, qui était connu de tout le monde parisien, a tenu son journal pendant l'occupation, pendant la libération et pendant ces quelques jours. Alors il allait se promener, promener son chien sur le boulevard Saint-Michel pendant toutes ces histoires. C'est passionnant, il montre le peuple qui a peur, qui rentre quand ça tiraille, qui est courageux, qui revient avec des gens un peu bravaches. Puis des gens... C'est compliqué avec des problèmes de ravitaillement qui continuent.
Quels sont justement ces problèmes de ravitaillement? Quel est l'état du ravitaillement à Paris?
L'état du ravitaillement est égal à zéro. Plus rien ne vient. Et je vous ai parlé de Tétinger qui organisait. Il fallait du lait pour les gosses, pour les adultes, il n'y en avait pas. Le métro ne circulait plus, plus du tout. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de gaz, il n'y avait plus rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, on en parle avec des trémolos, etc. Mais je vous jure, c'était très dur. C'était
pendant
très
combien
difficile.
De temps les conditions ont été si difficiles? Elles le sont depuis combien de temps?
Elles étaient depuis qu'on a coupé la Normandie. La Normandie, depuis qu'on a coupé la province, n'est-ce pas, toutes les voies de communication sont coupées, tout est coupé, tous les camions.
Elles le sont aussi bien pour Vichy que pour les Français.
Pour Vichy, bien sûr, que pour Paris, bien sûr. Tous les ponts sont cassés, toutes les voitures sur la route sont mitraillées par les avions anglais et américains, les camions sont mitraillés. Alors bon, tout ça, je vous jure, le ravitaillement est affreusement difficile. Il n'y a rien, ça va durer encore pendant un certain temps, mais en tout cas... Donc il y a la vie quotidienne, on n'y pense jamais, on parle toujours, je veux bien, raison, sans doute, mais il faut parler de la vie quotidienne. Et c'était difficile. Alors De Gaulle va donc lancer la division Leclerc. Leclerc va lancer un homme qui s'appelait le capitaine Drone. Drone qui avait une petite unité blindée, qui va arriver à Paris le soir, n'est-ce pas, à l'hôtel de ville devant Notre-Dame, et tout est cloche de Paris en sonnée. Et le général...
Pourquoi faire sonner toutes ces cloches en même temps?
Pour annoncer l'arrivée de cette colonne libératrice.
Ce que les Parisiens comprennent tout de suite?
Oui, bien sûr. Et tous les curés ont téléphone, il y a un speaker qui parle à la radio. Le téléphone a toujours marché. Ce qui est fabuleux, le téléphone a toujours marché.
Lui n'a jamais été coupé
non,
à l'inverse du métro.
Le téléphone a toujours
etc.
marché. Il y a des choses dramatiques. Des gens qui se trouvaient à 20 km de Paris avec Leclerc ont téléphoné à leurs parents. Papa, j'arrive. Maman, j'arrive. Ils ont été tués avant d'arriver.
Donc on les attendait. On avait mis les petits plats dans les granges, j'imagine. Et le coup de fil...
Ils ont été tués. Alors donc, c'est cette histoire. Tout est cloche sonne. Von Soltis est toujours là, dans son état-major, rue de Rivoli, à l'hôtel Meurice, d'ailleurs. L'hôtel Meurice. Et on lui téléphone, c'est plus Adler, mettons que ce soit Adler, chef d'état-major général de l'armée allemande, mettons Adler, je ne sais pas. Lui téléphone, et le général lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Où en êtes-vous ?» Et il va ouvrir les fenêtres pour que le téléphone en Allemagne, on entend le bruit des cloches de Paris, de toutes les églises de Paris qui sonnent. Et il lui dit, alors l'autre, à Berlin, ou je ne sais pas où, enfin, lui dit, au quartier général allemand, lui dit, qu'est-ce qui se passe, général? Il dit, vous entendez ces cloches? C'est l'armée alliée qui entre dans Paris.
Et l'Allemagne est avertie de l'entrée de l'armée alliée
dans Paris, comme ça.
Par le bruit des cloches
et
au téléphone.
Un jour, j'ai fait une émission de radio, il y a 10 ans, d'ailleurs, en France Inter. Et j'ai fait ouvrir pas ouvrir les fenêtres, mais j'ai raconté cette scène. Et on a entendu le bruit des cloches monter, comme si la fenêtre était ouverte. Et comme si le bruit des cloches s'engouffraient dans le bureau de von Soltis.
Alors, quel est le parcours dans Paris de cette deuxième division
blindée? Elle
vient
par la Porte d'Orléans. Elle vient par la rue Saint-Germain, par le boulevard Saint-Michel. Elle vient où il y a la statue de Leclerc aujourd'hui.
Et quel est son objectif? Où doit-elle aller?
Son objectif, c'est très simple, c'est d'aller prendre la Concorde, la place, les quartiers allemands, les quartiers où il y a des Allemands. C'est-à-dire les casernes où il y a des Allemands et la rue de Rivoli où sont tous les états-majors allemands.
Elle va y arriver en combien de temps?
Drone arrive le soir et le lendemain, la colonne de Leclerc arrive et c'est réglé, si vous voulez, dans l'après-midi, dans la matinée, dans l'après-midi.
Et donc c'est sur
alors,
son...
De Gaulle arrive l'après-midi. Alors, pour revenir à la querelle, De Gaulle arrive dans l'après-midi, on a sa photo, et c'est la première fois, et il y a même un film, c'est la première fois où on le voit avec des lunettes.
Des lunettes
avait,
de vue.
D'abord, il y avait très, très, très peu. Il faut toujours rappeler que nous ne sommes pas 1944, c'est pas Internet, n'existe pas. La télévision n'existe pas. Le
micro-ondes.
Le mail n'existait pas. Le transistor n'existe pas. Le transistor est de 56, on l'oublie. Tout ça n'existe pas. Alors, de Gaulle, on ne l'avait pas vu beaucoup. Enfin, il y a peut-être eu quelques images. Et là, pour ceux qui l'ont vu après, c'est la première fois où on le voit chaussant des lunettes pour lire quoi ? Pour lire l'ordre de, l'acte de reddition de von Soltis. Il est furieux, de Gaulle. Il est furieux. Il engueule, enfin oui, si vous voulez. Enfin, oui, il engueule Leclerc.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a deux signatures. Il y a celle de Leclerc et celle de Roltanguy. Qui était Roltanguy qui vient de mourir, qui est mort il y a un an ou deux. C'est un homme très, très courageux, un communiste très courageux, qui avait mené la résistance du côté communiste, qui était le chef de la résistance du côté communiste, et qui avait obtenu de Chaban, de Leclerc, enfin de la résistance, de Parodi, qui avait obtenu de co-signer l'acte de résistance.
Et pourquoi est-ce que De Gaulle est-il si mécontent de cela ?
Mademoiselle, parce qu'il ne veut pas de co-pouvoir. Leclerc est militaire, Leclerc dépend de De Gaulle, Leclerc est soldat de De Gaulle. Roltanguy n'est pas soldat de De Gaulle, il ne dépend pas de De Gaulle.
Donc cette signature, ce serait un pouvoir partagé entre
c'est
De Gaulle et Roltanguy.
C'est un pouvoir partagé, ça ne va pas durer longtemps. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la suite. Ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est une volonté de co-pouvoir et De Gaulle n'en veut pas. Il ne veut pas recevoir Paris la main des Américains. Et Dieu sait qu'il sera en querelle permanente avec les Américains.
Oui, Paris libéré par soi-même, c'est vraiment ce qu'il souhaite.
Oui, c'est pas vrai, c'est une vaste blague, naturellement. C'est une légende. Les légendes sont utiles, pour les peuples, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants, mais c'est archi-faux, historiquement. Paris n'est pas libéré par lui-même. Paris n'aurait pas été libéré. S'il n'y avait pas eu le débarquement, s'il n'y avait pas eu l'armée américaine, s'il n'y avait pas eu l'aviation américaine, s'il n'y avait pas eu l'armée anglaise, s'il n'y avait pas eu la division Leclerc.
Et Paris c'est bien de le rappeler.
Paris ne pouvait pas se libérer par lui-même contre les Allemands, même ceux qui étaient là. Non, 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 bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est une phrase historique. Si j'ose dire, De Gaulle, quand il a prononcé cette phrase, c'est à l'hôtel de ville. Le film existe, on le voit. Il se monte, n'est-ce pas ? Tous les mots, il escalade, c'est un Himalaya de mots, jusqu'à Paris libéré par lui-même, ce qui est la blague, naturellement, mais tout le monde acclame, et puis ça devient une vérité historique, alors que ce n'est pas vrai, naturellement. Mais c'est comme ça, bon, on ne va pas changer ça, comme il donne la fourragère rouge aux agents de ville de Paris.
Alors on revient à cet acte.
La fourragère rouge, c'est-à-dire la fourragère, la Légion d'honneur. Pendant la guerre 14-18, il fallait qu'une unité ait été trois fois citée à l'ordre de l'armée ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment très compliqué.
Bon. On revient à cet acte de reddition qui donc, entre guillemets, hérisse un petit peu, le général de Gaulle. Ouais. Finalement, comment il va réussir à contourner ça ?
D'abord, il arrive à ce qu'il appelle au centre.
Le centre, c'est le ministère de la guerre.
Le centre, c'est le ministère de la guerre, d'où il était parti le 10 juin 40.
Et donc, il veut revenir à l'endroit qu'il avait quitté.
Sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Il part le 10 juin, au soir, dans la même voiture que Paul Reynaud, qui était président du Conseil. Et puis, il revient 4 ans après, n'est-ce pas ? 4 ans et puis un mois et demi ou deux mois après. Il revient, il vient au centre et il apprend des nouvelles du débarquement du 15 août. dont on ne parle pas assez,
c'est-à-dire
du débarquement en Provence de l'armée du général de Lattre, de ce qu'on a appelé d'abord l'armée B, puis l'armée de Lattre, puis l'armée Rhin, et d'une armée américaine qui remontait le long du Rhône, etc. Et puis, il n'avait pas envie d'y aller, parce qu'il n'aime pas les hommes politiques. Il les avait beaucoup flattés avant la guerre, mais là, il avait beaucoup tiré la sonnette des hommes politiques avant la guerre, mais là, il ne les aimait pas du tout. Et il va donc à l'hôtel de ville, en passant par la préfecture de police, où il est reçu par le nouveau préfet de police, qui s'appelait Luizet. Et bon, il va à l'hôtel de ville, pas très enthousiaste. C'est là où il fait son discours. Et Georges Bidault, qui était président du Conseil national de la résistance, Georges Bidault, que j'ai connu, lui dit, mon général, qui avait succédé à Jean Moulin. Et Georges Bidault lui dit, mon général, il faudrait que vous proclamiez la République. Et que dit De Gaulle ? Mais la République, elle n'a jamais cessé d'exister. Parce que la vérité, et on ne comprend rien du tout, rien du tout à 40. Si on oublie qu'en 40, De Gaulle ne va pas du tout à Londres comme général de brigade à titre temporaire. Il était général de brigade à titre temporaire depuis 15 jours. Enfin, 18 jours, si vous voulez. Il n'y va pas comme général. Commander quoi et sur quel théâtre d'opération ? C'est pas sérieux. Il y va comme ministre, enfin, secrétaire d'État à la guerre, on dit ministre. Hein. Quand on est bien élevé, secrétaire d'État, on dit monsieur le ministre.
Et pour lui, il revient
ministre,
dans cette fonction.
Dans une autre fonction. Il a le pouvoir. Il est légitime pour lui, dans son esprit, par rapport au maréchal Pétain. Il y a tout ce qui va se passer à Vichy. C'est lui, le ministre de la Troisième République, qui transporte à Londres les pouvoirs, l'autorité de la République. Donc la République n'a jamais cessé en sa personne, elle a toujours continué.
Avec son retour à Paris, revient le pouvoir de la République.
Quelques jours avant le débarquement, à Alger, il y avait eu la constitution du gouvernement provisoire de la République. Bon. Donc, il représente la République.
De Gaulle est donc de retour à Paris, avec lui le pouvoir de la République. Je reçois
pas
Henri.
Le pouvoir qu'il s'attribue, mais il dit c'est la République. La République n'a jamais cessé d'être.
La République n'a jamais cessé d'être. Je reçois Henri Amouroux. Nous évoquons la libération de Paris qui a eu lieu le 25 août 1944. Nous nous retrouvons après une dernière pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amouroux. Vous êtes l'auteur de La grande histoire des Français sous l'occupation, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Avec vous, nous revenons sur la libération de Paris qui, donc, je le rappelle, a eu lieu le 25 août 1944. On fête cette année son 60e anniversaire. Henri Amouroux, lorsque vous avez débuté la rédaction de ce 8e volume consacré à la libération de Paris, vous pensiez que c'était le dernier. Finalement, ça ne le sera pas. Il va être suivi encore de 2 volumes, les règlements de compte et la page n'est pas encore tournée. C'est dire s'il reste à faire et s'il reste beaucoup à faire le 26 août. D'abord, De Gaulle doit, c'est ce que vous nous disiez, installer son pouvoir. Comment est-ce qu'il s'y prend concrètement?
C'est pas compliqué. Bon, donc un vendredi, un samedi, un dimanche. Alors, dimanche, bon, samedi, dimanche, il n'y a pas grand-chose. Le lundi. Il raconte ça dans ses mémoires de guerre. Il fait venir d'abord ce qu'il appelle, dans ses mémoires de guerre, les chefs partisans. Or, le général de Gaulle, entre beaucoup de qualités, a une grande qualité, c'est qu'il a le choix des mots. Il n'emploie pas un mot pour un autre. Quand il dit les chefs partisans, et non pas les chefs résistants, ça diminue de beaucoup ce dont il parle. Il ne faut jamais s'y méprendre. Partisans, ce n'est pas pareil que résistants. Il reçoit donc les chefs partisans, qui étaient tous au moins colonels. Enfin, non, ils n'avaient pas de général, mais ils sont colonels, tous. Il les fait mettre en rang devant lui. Enfin, ils sont là devant lui en rang. Comme ça. Et il leur demande quel était votre grade en 1939 ou en 1940. Alors un colonel dit caporal ou deuxième classe, mon général, etc. Donc tout de suite, ces hommes, qui avait beaucoup de courage et qui s'était battu, qui étaient des gens très bien pour la plupart. Donc, c'est pas De Gaulle dans ses manifestations d'autorité ne se montre pas toujours équitable et toujours très bien. Hein. Donc, il leur explique bon qu'ils vont ils vont retrouver un grade honorable, mais sûrement pas celui de colonel, ils seront lieutenants, ils seront capitaines. Et qu'en vérité, ils vont revenir dans des unités. Qui sont des unités de l'armée française. Or,
ce qu'ils ne souhaitent pas, ces chefs qu'on appelle partisans.
Mais voyons, tous ces gens étaient chefs de partisans, de gens qui leur appartenaient. Je ne veux pas dire des chefs de bande, mais des chefs de groupe, des chefs de maquis.
Donc c'est un recul, un pas en arrière
pour
eux.
Non, ce n'est pas ça. Ils perdent leur identité. Il faut d'abord qu'on connaisse leurs véritables antécédents. Véritables antécédents. Quand ils étaient communistes, il y en avait beaucoup qui avaient été condamnés pour désobéissance, incitation à la désobéissance. Il ne faut pas rêver. Bon. Alors, il y a tout ça. On vous retrouve votre véritable identité. Vous vous appelez plus du Guesclin ou Bayard, ou, je ne sais pas moi, Saint-Louis, enfin, n'importe quoi. Vous revenez à ce que vous êtes. Vous êtes mis dans les rangs de l'armée régulière. Il faut vous plier à une discipline. Et vos troupes, surtout, sont redistribuées. Quand elles veulent bien d'ailleurs suivre, après c'est du volontariat, il y en a qui vont suivre et qui vont aller avec l'armée Leclerc un peu, beaucoup l'armée de l'Atte pour aller continuer la guerre. Il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Beaucoup iront. Beaucoup.
Ces chefs partisans qui donc sont, on peut dire, les, entre guillemets, les déçus du pouvoir, ils vont en vouloir à De Gaulle.
Oui, mais bon, ils vont... Il y aura des manifestations, des tentatives, mais pas longues, pas prolongées, de désordre un peu, de répliquer à la volonté de Gaulle. Mais enfin, c'est pas possible. Il y a les Anglais, les Américains, très vite, enfin, c'est pas possible. C'est pas concevable. Et puis, l'après-midi, il fait venir le Conseil national de la Résistance. Et le Conseil national de la Résistance, si vous preniez, chère madame, la collection des journaux d'après la guerre, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous trouveriez, comme le Conseil national de la Résistance l'a dit, ou bien le gouvernement est infidèle au Conseil national de la Résistance, vous trouveriez tout ça. Le Conseil national de la Résistance, qui n'était plus dirigé par Bidault, car De Gaulle l'avait nommé ministre des Affaires étrangères, le met tout de suite aux Affaires étrangères. Le Conseil national de la Résistance voulait un pouvoir double, un copouvoir, une co-gestion du pouvoir. Et De Gaulle n'en veut absolument pas. Et leur dit une très belle phrase du genre « Vous entrez dans l'histoire, et entrer dans l'histoire, ça veut dire qu'on sort de la politique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si j'ose dire, mais il faut s'appeler De Gaulle. » Et après, la province, c'est le bazar, la province. C'est le bazar, la province. Il y a des...
Paris est libéré, mais la France dans sa totalité.
Oui, elle est beaucoup, mais vous avez des villes qui sont entre les mains de potentats locaux, de patrons locaux. C'est très simple, parce que vous avez un brassard et une mitraillette, vous êtes le patron par rapport à ceux qui n'ont ni brassard ni mitraillette.
Par exemple, un exemple
par
de
exemple,
ville.
Toulouse, par exemple, Marseille. Par exemple, Lyon, par exemple, même Bordeaux, je sais si c'est une ville tranquille, Bordeaux. Mais, alors, De Gaulle, 3 semaines après son arrivée, en septembre, donc il arrive, si vous voulez, 3 semaines, le 15 ou 16 septembre, je parle sans note, donc je peux dire une erreur de date, les auditeurs me pardonneront, mais bon, c'est mieux que de lire un texte, je crois. Donc, 3 semaines après, il prend un avion, il va dans les 4 villes chaudes du sud-ouest, du sud-est.
Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux.
Lyon, Marseille, il va à Toulon, voir ce qui restait, hélas, de navires français de guerre après le sabordage de la flotte, le 27 novembre 1942. Il va à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux. Et là, chaque fois, quand on prend les journaux locaux, on comprend bien ce qui se passe. Chaque fois, il voit les chefs partisans et les gens, les politiques. Chaque fois, il leur tient le discours qu'il a tenu à Paris. Mm-hmm. Et Ravanel, qui c'était à Toulouse, Ravanel, qui était un homme qu'il connaît bien, qui est encore avec Aubrac et ces gens dont je vous ai parlé, Cordier. Un des survivants de cette époque ayant eu un rôle, ayant eu une action. Ravanel me disait, nous attendions un grand frère, et on va arriver à un grand chef qui nous engueule. N'est-ce pas ? Après, il nous engueule. Oui, il y a la présentation des gens qui sont tous colonels. Et qui étaient tous... Il y en a un qui n'a pas de galon, à Toulouse précisément. Ils sont tous lieutenants-colonels ou colonels. Et De Gaulle lui dit, alors mon ami, vous ne savez pas coudre ? C'est celle qui n'avait pas de galon. Vous comprenez, ça
déstabilise. Une petite phrase assassine.
Ça déstabilise. Mmh. Et puis après, il va parler. Alors il met de l'ordre. Il visse un peu les gens en leur disant le pouvoir c'est moi, c'est pas vous. C'est
et
moi.
Il le fait vite, hein. On sent qu'il veut s'imposer très vite.
Parce que s'il ne le fait pas vite, d'autant plus qu'il n'y avait plus de relations entre Paris et la province. Il n'y avait plus de relations. Tout était coupé, les trains ne circulaient plus, tout était coupé. Alors il le fait très vite. Et puis après, quand il a fait ça, toutes les fois, il va au balcon, la préfecture, et il parle à la foule. Il fait toujours le même discours. Le même discours, je ne vois pas pourquoi il changerait.
Si ça marche quelque part, ça marchera ailleurs.
Oui, mais bien sûr. Et quel est le mot qui est acclamé ? Vous avez les récits des journaux qui rapportent le journal, le discours de Gaulle, avec entre parenthèses, applaudissements, hein, et ovations. Applaudissements, vif applaudissement, ovation. Le mot le plus fort, naturellement, c'est ovation.
Tout à fait.
Ovation. Quels sont les mots qui sont ovationnés ? Bon, c'est pas compliqué, c'est le mot ordre. Ordre. Le mot ordre. Quand De Gaulle parle de l'ordre, il est ovationné parce que les gens en ont marre de que leur ville soit entre les mains de bandes de gens qui sortent quelquefois qui sont des gens bien, mais quelquefois qui sont des gens moins bien. Je peux vous dire qu'à Nice, par exemple, là, le tiers de la police de l'épuration avait un casier judiciaire. Hein ? Le tiers de la police de l'épuration. À Antibes, il s'est déroulé des choses affreuses. À Antibes, on voit ça comme ça aujourd'hui, avec Antibes et Nice et les corseaux et les fleurs et la fête des fleurs. C'est pas du tout, c'était à la mitraillette à Antibes. Il y a des gens qui ont été fusillés, 3 personnes. Pour l'usufruit d'un figuier. Fusillé, top. Libération. C'est comme ça. Alors bon, De Gaulle va sur la place, sur le balcon, et le discours le plus applaudi, c'est le discours sur. Ce sont les mots dans le discours, les plus applaudis, c'est quand il parle de l'ordre, parce que les gens en ont marre. Ils sont pour la libération. Ils ne sont pas pour la pagaille, ils ne sont pas pour les gens qu'on arrête n'importe comment. Quand vous arrêtez n'importe qui, arrêtez n'importe qui. On vous fichait dans un camp et vous en sortiez. Ou on vous... Bon, il y a eu, dans certains départements...
Un ordre juste. Ils veulent un ordre juste.
Un ordre juste, bien sûr, c'est long. Il a fallu 6 mois, 7 mois pour établir un véritable ordre, c'est-à-dire séparer le bon grain de l'ivraie, séparer ceux qui avaient vraiment fait quelque chose des autres, Bon. Il y a eu des choses, l'histoire, les femmes tondues, tout ça a été très moche, vous savez. Beaucoup n'avaient pas du tout fraternisé avec les Allemands. Elles avaient refusé quelquefois de fraterniser avec ceux qui les tondaient. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Vous savez... C'est une période, la période des derniers mois de l'occupation, des premiers mois de la libération, est une période un peu glauque, hein, où la délation marche très bien. Moi, j'avais une de mes voisines qui avait dénoncé aux Allemands et qui dénonçait... Elle avait la manie de la délation, il y a des gens qui ont la manie de la délation. Elle dénonçait aux libérateurs, c'était comme ça.
Alors on comprend mieux justement le titre de ce 8e volume, Joie et douleur du peuple libéré. Ouais. La libération ne s'est pas faite que dans l'effusion de joie. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la libération de Paris. Un jour dans l'histoire recevait Henri Amouroux. Henri Amouroux, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et historien, auteur de La grande histoire des Français sous l'occupation, publié par les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Le 8e volume, Joie et douleur du peuple libéré, est consacré à l'été 1944, depuis le débarquement jusqu'à la libération de Paris.